Et maintenant, petits enfants, dans Jean 1, chapitre 2, verset 28, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, quand Jésus reviendra, nous ayons de l'assurance. Soyons pris, pas pris comme ça. Non, nous ayons de l'assurance. Parce que nous sanctifions le Christ dans nos cœurs, parce que nous vivons avec lui, parce que nous attendons au retour du Seigneur. Et nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alors, quelle est la définition de parousia, hein, c'est du grec. C'est la présence, la venue, l'arrivée, l'avènement. Le retour futur et visible de Jésus pour ressusciter les morts, se tenir au jugement dernier et établir glorieusement le royaume de Dieu. Donc, Jésus revient pour faire toutes ces choses. C'est important. Il va revenir nous chercher pour que là où il est, nous y soyons aussi. Il nous a promis cela, que nous allons être... il nous prépare une place pour l'instant. Extraordinaire de savoir qu'une place nous est préparée afin que là où il est, nous y soyons également. Donc, généralement, parousia est généralement traduit aussi par avènement, présence, arrivée, présent, retour, apparition. Alors, la seconde venue de Jésus-Christ, c'est très intéressant, c'est super important pour nous, le retour du Seigneur. Alors, il y a des signes annonciateurs, il y a des choses qui peuvent nous annoncer déjà que son retour est proche. Bien sûr, Paul attendait déjà, hein, il s'attendait à ce que Jésus revienne d'un jour à l'autre. Mais bon, il y a 2000 ans, mais il revient. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Et il y a des faits physiques et tangibles. D'accord ? Les calamités, toutes sortes de problèmes. Les tsunamis, ce n'est pas étranger à cela. Des tremblements de terre, des famines, des guerres, des soulèvements. Vous allez me dire, oui, mais il y a des guerres depuis longtemps. Ça, c'est effectivement vrai. Mais il y a une recrudescence de toutes ces choses qui se font en même temps. Et donc, il y a énormément d'événements qui se cumulent les uns aux autres, plus qu'il n'y en a jamais eu précédemment. Et donc, c'est pour ça je vous enjoins à aller lire dans Matthieu 24, il n'y a pas trop de temps pour lire tout cela, et Luc 21, bien sûr. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent des faits qui vont se produire à ce moment-là. Alors, il y a aussi les faits spirituels et moraux. Hein, les faits spirituels et moraux. L'Évangile doit être annoncé dans le monde entier, c'est alors que Jésus reviendra. C'est quand l'Évangile va être répandu sur la surface de la terre. Vous savez combien de langues sont parlées dans le monde ? Plus ou moins 6000, 6300, quelque chose comme cela. Mais la Bible est déjà traduite en plus de 2300, 2400, 2500 langues. Et les autres langues sont des langues de petites tribus, de peuples restreints, mais qui peuvent avoir accès aussi à une autre langue. Hein. Par exemple, bien sûr, il y a des tribus en Afrique qui ont certaines langues, mais il y a des fois, ils connaissent plusieurs langues et ça leur permet d'avoir quand même accès à la parole de Dieu. Bien sûr, les traducteurs continuent à traduire. Hein. Bon, ils sont en train de traduire, mais bon... des parties de la Bible, parce que la Bible entière, dans certaines langues, il faut faire une grammaire, un dictionnaire, parce que certaines langues sont orales. La plupart de ces langues-là sont orales uniquement, donc il faut faire tout un travail de grammaire, et de conjugaison, de dictionnaire pour reconnaître, identifier tous les mots, et puis alors essayer de faire une traduction la plus juste possible. Donc c'est tout un travail, ça c'est les sociétés bibliques hein, qui soutiennent ça, mais on évangélise par satellite, par des radios télévisées, mais maintenant on a Internet, hein, des sites Internet qui diffusent le plus largement dans les pays musulmans, etc. Et on l'a vu d'ailleurs mardi pour ceux qui étaient là, le travail qui est accompli pour que ceux qui sont derrière les rideaux de fer et les rideaux de... Il y a un rideau de fer, ça c'est pour... rappelle-moi... Il y a rideau de bambou et rideau de fer, c'est ça, il y a plusieurs choses. C'est les pays communistes, en fait, et les pays islamiques, durs, purs et durs, hein, d'accord, qui ne permettent pas que l'Évangile rentre sur leur sol, mais par les Internet, bien sûr, quelquefois, ils empêchent qu'Internet, en Chine, ils essayent de mettre, et en Corée du Nord, ils essayent d'empêcher que les gens puissent... se connecter avec le monde extérieur, et donc ils ferment, ils essaient de fermer. Mais malgré cela, on parvient à envoyer des bibles, on parvient à passer les frontières en prenant des risques, mais voilà, donc la porte ouverte par exemple, alors que la Chine était vraiment un pays extrêmement fermé en 89, c'est en 1983, un million de bibles sont arrivés sur les côtes, sur les plages de la Chine, et ils ont redistribué ça par les églises, etc. C'était vraiment un coup extraordinaire, un coup. Et voilà, la prière, ils ont énormément prié, et ils ont prié aussi pour le rideau de fer pour passer en Russie. Et frère André a pris des risques énormes pour passer avec sa voiture. Ça, c'était une Volkswagen, comment déjà, les coccinelles. La coccinelle remplie dans les bas de caisse, il y avait des bibles partout, bien cachées, et ou enfin, ce qu'ils pouvaient, comme ils pouvaient cacher, mais on l'a laissé passer, quoi. C'était vraiment dû à aveugler les gardes et les gardes frontières. Et c'est extraordinaire. Il y a eu des choses, des centaines, des milliers d'exemples où la parole de Dieu a traversé les frontières, hein, d'accord. Et je crois que c'est formidable. Et on évangélise, bien sûr, par satellite, on évangélise de différentes manières. Voilà. Alors, la seconde venue de Christ. Christ, on n'est pas encore, on n'avait pas encore fini. Donc, il y a l'évangile annoncé dans le monde entier, première chose. Il y a les soi-disant apparitions du Christ. Il y a des gens, même en Hollande, qui proclament être le Christ. Oui, je suis revenu, c'est moi, c'est Jésus-Christ. C'est certaines personnes comme ça se prennent pour Jésus et disent qu'ils sont voilà, que le Christ est là. Mais ça doit arriver. Il y a rien à faire. Ça a été annoncé par les Écritures qui auraient. Il y a toutes sortes de versets bibliques qui peuvent nous dire qu'il y aura des fausses apparitions de Christ pour essayer de tromper une multitude, parce que le diable essaye de tromper. Le maximum de personnes pour ne pas qu'ils soient sauvés. Le diable est opposé à l'Église, est opposé au Christ, est opposé à la volonté de Dieu, au royaume de Dieu. Et forcément, il essaye de faire tout son possible pour que le moins de gens puissent connaître le Seigneur. Alors, il y a aussi l'abandon de la foi, c'est ce qui s'appelle l'apostasie, c'est quand on abandonne, on arrête de croire. Hein, beaucoup de gens sont apostats. Ils adopteront la forme, mais ils en renieront la force. Hein, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il y a des gens qui conservent la forme religieuse, la forme est là, l'extérieur, la parure extérieure religieuse, soi-disant, mais l'intérieur est vide. Il n'y a aucune force, parce qu'ils ne prennent pas la force qui est en Christ, ils ne prennent pas la force de la parole de Dieu comme étant ligne directrice pour leur vie, pour leur choix, pour leur façon de vivre. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus aucun impact. Et il y aura des angoisses face à l'avenir. Il y a bien d'autres choses qu'on aurait pu encore dire. La décroissance de l'amour, hein, le fait que les enfants sont rebelles à leurs parents. Il y a plein de choses comme cela. Et donc, la seconde venue de Christ, qu'est-ce qui va se passer lors de la seconde venue du Christ? C'est intéressant pour nous. Hein. Christ reviendra en personne. Hein. Christ reviendra en personne dans son corps de gloire. Hein. Il reviendra en personne. Jésus ne va pas envoyer quelqu'un, mais c'est lui qui va revenir. D'accord? C'est lui qui va revenir nous chercher. Il reviendra dans les airs. Hein. Et nous irons à sa rencontre selon sa promesse, son retour est l'espérance des croyants. Son retour est l'espérance des croyants. Son retour est certain, même si le Seigneur semble tarder. Son retour, il est certain. Et parce que la parole de Dieu l'atteste, vraiment, ça c'est clair. Tous les théologiens fidèles à la Bible insistent sur le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église, mais c'est vrai qu'il existe plusieurs chronologies, hein, qui sont existantes dans le corps de Christ, dans l'Église. Des théologiens ont des idées qui peuvent être différentes les uns des autres. Hein. Bien sûr, nous ici, nous allons étudier simplement une vision, une des visions qui existent, la vision pré-millénariste. Nous croyons qu'il y aura un millénium où Jésus viendra vivre sur la terre. Et donc, il reviendra chercher son Église avant cela. La seconde venue du Christ se fera en deux phases. Premièrement, tout d'abord, les croyants seront enlevés à sa rencontre dans les airs. Ça, c'est la première chose. C'est quand Jésus vient chercher son Église, et son Église va avec lui. Et donc, nous allons aller où ? Ben, au ciel, il y a les noces de l'agneau. Ça va être extraordinaire, ça va être formidable. Et puis, Christ reviendra sur la terre avec les siens à la vue de toute l'humanité. Hein? Et c'est vrai que les Juifs, dans Zacharie, il est dit qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé dans Zacharie. Voilà, c'est quelque chose de... Après une période de tribulation, il y aura une tribulation, il y a une période de tribulation, vous savez qu'il va y avoir une période de tribulation, je ne sais pas si vous savez, est-ce que vous êtes au courant ? Plusieurs étaient là pour l'apocalypse que Mike Williams, le pasteur Mike Williams nous a expliqué de tous les chapitres, et il y aura bien sûr une période de tribulation, la petite et la grande tribulation. Et normalement, nous ne devrions pas, nous croyants, être dans la période de la grande tribulation. Hein, nous serons déjà enlevés avec le Seigneur, mais la grande tribulation, ça va être quelque chose de terrible pour ceux qui resteront. Alors, après une période de tribulation, Jésus-Christ reviendra à l'improviste. Ça, c'est c'est quand il revient corporellement, d'accord, sur le mont des Oliviers, environné de gloire, d'une façon visible pour toute l'humanité et revêtu d'autorité. Alors, il remettra de l'ordre, hein, d'un règne de justice et de paix qui va être établi sur terre. Et bien sûr, il y aura par la suite le tribunal du Christ où tout le monde va devoir être jugé. Et ça commencera par l'Église, ça commencera par les frères et les sœurs. Et ce n'est pas un jugement concernant le salut, parce que celui qui a reçu Jésus, qui a reçu la grâce du salut, ne sera plus condamné. À partir du moment où il a vécu de manière qu'il a reçu la grâce de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Par contre, il y aura des récompenses pour ceux qui ont vécu de manière chrétienne, de manière honorable, et Dieu va donner des récompenses à ceux qui le méritent. Ça, c'est le mérite, c'est par rapport à des récompenses, par rapport à comment nous avons vécu dans notre vie chrétienne. Mais à partir du moment où on a reçu le Christ, nous avons vécu, bien sûr, il faut persévérer. Hein. Je pense que là, nous avons une notion de persévérance, parce que le simple fait d'avoir accepté Jésus et ne pas mettre vraiment sa vie en règle avec Dieu ou continuer dans des péchés grossiers nous priverait de la vie éternelle. Nous renderions notre vie de foi, on pourrait dire comme ça, nulle par le fait de ne pas avoir obéi à ce que Dieu nous demande. Hein, je crois que c'est important. La foi, elle est associée d'actes et d'œuvres. Bon, je crois que c'est important. Alors, nous allons nous concentrer sur l'enlèvement des croyants. L'enlèvement des croyants, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Sans espérance, nous sommes tristes, hein, vous êtes d'accord. Hein, s'il n'y a pas de vie après la mort... Chaque fois qu'il y a quelqu'un qu'on aime qui meurt, s'il n'y a pas d'espérance, oui, on peut être triste, évidemment, la tristesse par rapport à ceux que l'on perd. Mais si on sait qu'il y a une espérance et qu'on le reverra, la personne, c'est extraordinaire. On sait bien que ce n'est pas une tristesse qui va nous démolir complètement, parce que nous savons que nous allons revoir la personne. Et nous, en tout cas, si nous croyons, nous serons avec le Seigneur. Ça, c'est quelque chose de formidable. Verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et donc, Paul, l'apôtre Paul a reçu cette révélation de comment ça allait se produire. Parce que jusque-là, on ne savait pas trop. Hein? Mais il a reçu une révélation. Voilà comment ça va se passer. Un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, eh bien, Jésus descendra et viendra nous rechercher, soit comme aimanté. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, d'accord, et nous allons partir avec lui. Hein? Nous serons toujours avec le Seigneur. C'est d'abord les morts qui vont ressusciter. D'abord, premièrement, les morts vont ressusciter. Les morts en Christ. Pas les morts qui ne sont pas en Christ, mais les morts qui sont en Christ. Et puis nous allons être changés. Et c'est un autre texte qui nous dit que nous allons être changés. Hein? Nous allons recevoir un nouveau corps. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas. Pas tous, mais tous nous serons transformés. Enfin, il pensait qu'il s'attendait à ce que Jésus revienne d'un instant à l'autre. Alors, nous n'allons pas tous mourir. Mais en fait, ceux qui seront vivants, en tout cas à ce moment-là, seront changés. Mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Waouh! Formidable! Jésus revient. Alors, c'est ce que nous avons vu, trois signes. Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Ça s'entendra. C'est quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous d'entendre l'archange. Le signal donné, bon, si vous l'avez loupé, la voix de l'archange. Puis le son de la trompette, intéressant. Hein? Vraiment, nous allons entendre la trompette de Dieu. Ça va être plus qu'intéressant. La trompette de Dieu, ça va être saisissant. Ça va être magnifique. Ça va être glorieux. Ça va être fantastique. Hein? C'est plus beau que les trompettes qu'on a fabriquées sur la terre, d'accord, hein? Les trompettes utilisées par les anges, je peux vous assurer qu'elles n'ont rien à voir avec même les trompettes en or qu'on peut fabriquer sur la terre. D'accord, ou en argent ou un autre métal précieux de ce type-là. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront, nous serons changés, enlevés et rejoindrons Jésus dans les airs, nous serons éternellement avec lui. Éternellement. C'est un encouragement. Hein? Et c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus. Jean chapitre 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit Jésus. Si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Vous voyez, il prépare une place, mais voilà, c'est pas simplement comme ça. Voilà, il prépare une place, et puis bon, on ira. Et Jésus a dit, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, comment est-ce que cet événement arrivera? Eh bien, il aura lieu subitement, tout d'un coup, subitement. Donc, on ne peut pas prévoir. On ne peut pas dire, tiens, ça va se passer dans 15 jours. Bon, dans 6 jours, je commence à me sanctifier, parce que bon, et puis après, quand le Seigneur sera là, je serai prêt. Mais non, raté, parce que il y a des gens qui veulent attendre le dernier jour de leur vie, par exemple, parce qu'il y a deux choses qui peuvent faire venir la fin, c'est soit Jésus revient, ça, bon, ben, pour nous, la vie, le train-train de ce monde, c'est terminé. Hein, Jésus revient, c'est autre chose, on passe à autre chose, et c'est pour l'éternité, ou bien je meurs. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Là, c'est vrai que je me retrouve directement dans l'éternité, là. Hein, c'est les deux possibilités. Hein. Et je dois être prêt, parce que je ne sais pas quand ça va arriver. Je ne sais pas quand ça va arriver. Ni ma mort, si je dois mourir, peut-être que je ne mourrai pas, le Seigneur sera revenu. Hein, ou bien le retour du Seigneur. Mais la seule solution, la seule chose que je peux faire, c'est de me préparer, puisque je ne sais rien par rapport à ce moment-là. Il y a bien les signes, mais à part les signes, avant-coureurs, je ne sais pas. Donc, 1 Jean, chapitre 2, verset 28, nous dit ceci, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Si nous vivons charnellement notre petite histoire et nous vivons une petite religion, mais simplement le matin, le dimanche matin, quand on se réveille, « Ah oui, je vais à l'église. » Et je me réveille que finalement, oui, c'est vrai que Dieu existe, j'avais complètement oublié. Et je vis une vie comme ça, avec... des passages à vide avec Dieu, où je n'ai aucune relation avec Dieu, et puis tout d'un coup je me réveille un peu. Jésus peut revenir dans les moments où je n'ai pas de relation avec lui, où peut-être le péché a pris. Je lisais il n'y a pas longtemps, construire notre relation, ça peut prendre l'énergie de toute une année, de chaque année, de chaque moment, de chaque heure qui passe, de chaque jour qui passe, de chaque jour et nuit qui passe, de chaque semaine, de chaque mois. Je dois travailler à ma sanctification, je dois travailler avec Dieu, je dois travailler en lisant la parole de Dieu, en priant. Je médite la parole, je me discipline pour vivre avec Dieu. Vous savez quoi? Il suffit d'une heure, je me laisse aller, je peux gâcher tout l'effort d'une année ou de plusieurs années. En une heure, c'est possible? Ouais. De se laisser aller, tomber. On peut ruiner les efforts que nous avons fournis pendant... Vous vous rendez compte que nous ne devons pas nous relâcher. Et pour ça, nous devons avoir de l'espérance. Si notre espérance s'éteint, je vais peut-être me relâcher. À un moment donné, je vais me laisser aller, un peu comme les gens de ce monde qui sont là, dans l'école et à mon boulot, et la façon dont ils ont parlé de considérer la vie. Et je peux très, très bien arriver à me relâcher. Oui, vous allez me dire, Dieu est un Dieu de pardon, mais faites attention, des fois, il y a des catastrophes qui se passent en une heure. Faisons attention à la vie que Dieu nous a donnée. Luc 12, verset 40, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous n'y penserez pas. Terrible. Et c'est à ce moment-là, quand vous n'y penserez pas. Donc il faut y penser. Y penser au Seigneur. Être conscient de sa présence. C'est ça. Prier sans cesse, c'est quoi? C'est vivre avec la conscience que Dieu est présent avec moi. Ça ne veut pas dire que je suis en train de fermer mes yeux quand je conduis ma voiture, parce que je vais avoir un accident. D'accord? Mais j'ai la conscience de la présence de Dieu. C'est comme ça que je peux prier sans cesse. Parce que je suis constamment en présence de Dieu. Et je sais qu'il revient. Il revient bientôt. Et ça ne fait aucun doute. Et ce n'est pas parce que j'ai passé beaucoup d'années et que je n'ai pas vu revenir qu'il n'est pas là à la porte. Ce n'est pas parce que un grand nombre de gens se sont endormis spirituellement au point de ne plus même savoir que Jésus revient que je dois louper l'occasion de sans cesse avoir mes regards sur lui. Parce que à n'importe quel moment, il peut revenir. Et je ne sais pas, pour ma propre vie, je suis comme une herbe qui peut te couper. Je suis comme un souffle. Souffle, c'est très bref. Un son. Et c'est ça la vie humaine que Dieu nous a donnée. C'est très court. C'est très court. Et nous nous retrouvons après dans l'éternité. Et Jésus revient nous chercher. C'est important. Soyons prêts et restons vigilants. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mettez toute votre espérance dans la grâce. La grâce est un cadeau, hein. Je ne mérite pas que Jésus vienne me chercher. Bien sûr, mais c'est une grâce, c'est un cadeau immérité, c'est extraordinaire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La mort de Jésus, sa résurrection, son ascension et la réception de l'Esprit promis à la Pentecôte ont permis que nous naissions de nouveau parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, parce que nous avons entendu la parole qui vient de Dieu. C'est pourquoi tout ça, nous naissons de nouveau, pourquoi ? Pour une espérance vivante. C'est une espérance vivante qui nous fait tenir debout. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, une espérance vivante. Laissez vivre cette espérance dans votre cœur. Qu'elle vive !» L'espérance et la foi sont liées dans les promesses de Dieu. L'espérance et la foi, on ne peut pas dissocier. La foi, ça marche. L'espérance marche avec la foi. On en a besoin des deux. Mais la foi doit être nourrie aussi par l'espérance. J'ai la foi, mais j'ai aussi l'espérance. Il y a le déjà et le pas encore. Alors pour le déjà, il y a des choses merveilleuses que je vais voir sur cette terre. Et je dois avoir la foi. Mais j'ai besoin d'espérance aussi pour les choses qui sont plus lointaines et les choses que Dieu va accomplir. Plus lointaines, mais comme on l'a dit, peut-être pas si lointaines que ça. Je crois que c'est important. Et Colossiens, chapitre 1, verset 23, nous parle de l'espérance et de la foi. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Sans vous laisser détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Restez fondés, inébranlables dans la foi, mais attention, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Je peux oublier certains textes de la parole de Dieu qui concernent l'espérance. Et je suis dans la foi, moi j'ai la foi, hein, et des fois ça ne tourne pas correctement dans ma vie. Et si ça ne tourne pas bien, ma foi, elle peut s'effondrer. Mais grâce à l'espérance, je ne vais pas m'effondrer. Grâce à l'espérance, je vais tenir le coup. Je crois que c'est fort important. Notre espérance est attachée à notre appel. Elle est vraiment attachée à notre appel. Éphésiens, chapitre 1, verset 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Vous êtes appelé de Dieu à être enfant de Dieu. Il y a un appel, un héritage. Il y a une espérance aussi qui s'attache à l'appel. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il y a déjà les prémices, il y a déjà Jésus en nous, mais un jour nous allons être avec lui, nous allons le voir face à face. Physiquement, nous serons avec le Seigneur. Pour l'instant, c'est spirituellement, Jésus est en nous. C'est déjà l'espérance de la gloire. C'est les arts de l'esprit sont déjà en nous, les prémices. Ce qui vient en premier, je vais dire l'acompte. Dieu nous a donné déjà l'acompte. Il y a la totalité après. Alors, ça va être extraordinaire. Dieu va faire des choses fabuleuses. Donc, c'est tellement important. Christ, c'est l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, ça, c'est l'espérance de la gloire. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, d'accord ? Et Jésus est en vous. Extraordinaire pour celui qui a Jésus, en tout cas, en lui. Parce que nous n'avons pas forcément tous Jésus en nous. Ça dépend si nous avons reçu ou pas. Si nous l'avons reçu, alors Christ est en nous, bien sûr, il ne faut pas en douter. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous devons connaître notre espérance pour la défendre. Comment est-ce que, si je me trouve avec des gens qui ne croient pas et qui veulent nous détruire notre foi en disant, mais ton Dieu n'existe pas. Regarde les malheurs, les misères, et toi-même, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut, etc. On pourrait essayer d'examiner les choses. Nous devons être capables d'exprimer cette espérance. Donc nous devons la connaître, nous devons l'expérimenter, nous devons la vivre, nous devons la croire, nous devons la saisir, nous devons la retenir et nous devons être capables de la défendre. Je crois que c'est fort important de défendre ce que nous croyons, parce qu'il y aura toujours des gens ou des pensées qui vont vous traverser l'esprit par rapport à des situations données où il va falloir que vous puissiez vous armer contre les pensées venant de l'adversaire quand ça ne va pas. Il y a des situations difficiles. Si nous fouillons la parole de Dieu, si nous cherchons dans la parole de Dieu, nous allons trouver de quoi nous défendre. Défendre notre foi, mais aussi défendre notre espérance. Je crois que c'est fort important. 1 Pierre 3,15 « Mais respectez dans votre cœur, ou sanctifiez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. » Devez défendre votre foi et vous devez être capable et outillé pour répondre à des paroles destructrices au niveau de la foi. Vous devez savoir en qui vous croyez, parce que sinon c'est les autres qui vont vous influencer. Les autres seront plus forts que vous. En fait, il y a des gens spécialistes pour démonter la foi des gens. Allez sur YouTube, il y a des musulmans qui s'amusent à faire des petites vidéos pour démolir la foi des chrétiens. Eh bien, soyez confrontés à ce genre de trucs je peux vous assurer qu'il faut aller revoir un peu dans la Bible. Parce que ces gens-là utilisent quelquefois des parties de versets qui mises hors de contexte, leur donneraient raison, mais en réalité, ce sont des mensonges diaboliques pour démolir notre foi. Et c'est exactement les tactiques du diable. Et donc, nous devons être capables de saisir la parole de Dieu, d'être capables de l'utiliser contre tous les stratagèmes de l'adversaire, qui utilisent aussi d'autres personnes, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne savent rien de la parole et qui veulent détruire la foi. Et donc, ayons cette capacité de connaître afin de pouvoir défendre cette espérance. L'espérance en Christ nous garde purs. Si nous avons cette espérance en nous, nous sommes purs. Dieu purifie nos cœurs par l'espérance. 1 Jean 3,3 « Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Parce qu'il se prépare dans la crainte et le tremblement. Il examine ses voies, il recherche le Seigneur. Il cherche à être droit, il cherche à être pur, à être honnête, à être rempli du Saint-Esprit, à être rempli. Finalement, on est rempli de joie dans la pureté, la sainteté, la justice. Et c'est ça le royaume de Dieu. C'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le manger et le boire. Même si autour d'une tasse de café, autour d'un repas, on peut aussi célébrer le royaume de Dieu. Mais c'est le plus important, ce n'est pas là. C'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Et l'espérance active notre joie. C'est important d'espérer parce qu'elle renforce notre joie, notre confiance dans ce qui se passera. Mais peu importe ce qui se passe sur la terre, enfin peu importe, il y a des choses, on ne dit pas peu importe à tout, mais il y a des choses, je veux dire qu'il y a quelque chose de plus important que ce qui peut nous arriver. Que je crois que Dieu ne se fiche pas de nos histoires, hein. Quand on traverse des moments durs, Dieu, justement, est celui qui est avec nous. Mais il y a quelque chose de plus glorieux derrière cela. Et l'apôtre Paul dira que ce qui nous attend est beaucoup plus glorieux, infiniment incomparable aux misères de ce monde. La gloire qui nous est réservée dans les cieux ne peut pas être comparée aux problèmes que nous vivons. On ne peut pas faire de comparaison. Donc l'espérance nous soutient dans la détresse et les épreuves, car nous regardons plus loin vers le Christ. D'accord ? Romains 12:12, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière, soyez patients. N'allez pas rester dans la détresse toute la vie. Il y a des moments difficiles, mais bon, on ne va pas y rester calé le restant de l'éternité. C'est un passage obligé des fois. on ne sait pas faire autrement que de passer par des moments durs, mais nous allons les traverser, nous allons passer au travers du tunnel, il fait noir dans ce tunnel, mais il y a une sortie, il y a peut-être un début, un démarrage de la détresse, de l'épreuve, mais elle se terminera et nous aurons la possibilité de revoir la lumière, et cette lumière que le Christ nous a promise. Nous ne devons pas ignorer notre espérance qui transforme notre tristesse en joie. La tristesse est transformée en joie par le Saint-Esprit au travers de l'espérance. Et ça, c'est important. 1 Thessaloniciens 4:13, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Et donc, refusons l'ignorance. Le Seigneur nous fait connaître sa parole afin que nous ne restions pas dans l'ignorance, nous ne soyons pas comme les autres qui sont coincés dans la tristesse, mais qui vivent dans la joie. En conclusion, l'espérance active la paix et la joie par le Saint-Esprit. L'espérance active la paix et la joie. Alors, activez la paix et la joie dans votre vie par l'espérance. Et on le voit dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. On va le relire, il est tellement beau ce passage. Que le Dieu de l'espérance, nous avons un Dieu, c'est un Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Le Dieu de l'espérance. Le Dieu de mon espérance. Le Dieu de votre espérance. Emmanuel, proclame Dieu, le Dieu de l'espérance, de ton espérance. Que chacun de nous, nous puissions proclamer que Dieu est le Dieu de mon espérance. Et on pourrait le dire, tu es le Dieu de mon espérance. Le Dieu de mon espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance, débordiez par la puissance du Saint-Esprit. Nous puissions tous déborder de la puissance du Saint-Esprit, de joie, déborder de joie dans l'espérance, déborder d'espérance. Alors, est-ce que nous pourrions remettre ici Hébreux 6, 19, si vous voulez bien. Hébreux 6, 19. Et là, on revient avec l'encre. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Extraordinaire. Donc Jésus est notre précurseur, celui qui est allé devant nous, qui est avant nous. Il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est remonté au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Et donc il officie en tant que grand prêtre, en tant que souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il offre à Dieu ? Son sang, continuellement. Son sang a été offert, mais je veux dire que cet acte d'avoir offert son sang est encore actuel aujourd'hui. L'office de Jésus, puisqu'il intercède pour nous au travers de son sang, pourquoi est-ce qu'il pourrait intercéder en notre faveur si ce n'est pas au travers de son sacrifice et au travers du sang versé à la croix de Golgotha? Et c'est au travers du sang versé de Golgotha qu'il intercède, et Dieu le Père nous voit au travers du sang de son Fils. Il nous justifie, il nous pardonne, il nous fait grâce. Et donc le sang du Christ a encore une efficacité aujourd'hui au ciel, d'accord ? Il est entré dans le tabernacle céleste. Et là, on va dire derrière le voile, on sait bien que dans le tabernacle sous la terre, il y avait le lieu saint, le lieu très saint, il y avait le parvis, l'autel des holocaustes qui représente la croix. Il y avait la tente, la tente de Moïse. Vous avez peut-être déjà un petit peu vu cela. On aurait pu avoir des schémas, mais bon. il y avait trois choses dans le lieu saint. Il y avait l'autel des parfums, il y avait la table de pain de proposition et le chandelier, et puis il y avait le voile. Et là, la partie la plus sainte de cet endroit-là, c'était le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'Arche de l'Alliance, dans lesquelles étaient contenues, il y avait les deux tables de la loi, les dix commandements. Il y avait bien sûr un couvercle qui s'appelle le propitiatoire et des anges avec les ailes déployées. Et donc le souverain sacrificateur, une fois par an, rentrait dans le lieu très saint et offrait le sang des boucs, des agneaux, donc derrière le voile, et le sang était placé sous le couvercle du propitiatoire. Et donc le péché était couvert, et chaque fois il fallait recommencer le même sacrifice, mais Jésus est entré une fois pour toutes dans le tabernacle céleste, et derrière le voile en fait c'est sa chair. Derrière le voile, c'est la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même, la présence même de Dieu. Et il a offert, au travers du voile de sa chair, son sang, qui nous purifie de tout péché. Nous pouvons maintenant placer l'encre de notre foi et de notre espérance, et jeter jusque derrière le rideau, derrière le voile, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Je vais même dire là où Jésus est assis à la droite du Père. Notre ancre est là-bas. Nous tenons cette ancre. Vous imaginez comme une corde qui est retenue à l'ancre qui se trouve dans le lieu très saint de la présence de Dieu à la droite du Père. Cette ancre va jusque-là. Ah, extraordinaire, hein? Notre nom est écrit dans le livre de vie. Jésus est dans notre cœur, et nous sommes le temple du Saint-Esprit, et notre espérance a été jetée jusque à la droite de Dieu. Extraordinaire, c'est une vision particulière de voir ça, ça nous fait comprendre. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit, nous appartenons. Hein? Nous sommes scellés par le Saint-Esprit, je veux dire, le nom du Seigneur est sur nos vies, est invoqué sur notre vie. Nous lui appartenons. Et l'encre de notre espérance va jusqu'à la droite du Père. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je vous rappelle, spirituellement, nous sommes déjà en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes. D'accord ? Et l'encre de notre espérance va jusque-là. C'est extraordinaire. C'est autre chose que dans l'Ancien Testament où le souverain sacrificateur, pour aller dans le lieu très saint, il y avait une corde qui tenait son pied. Si jamais il avait péché et qu'il mourait dans le lieu très saint, il fallait le retirer. D'autres sacrificateurs l'auraient retiré du lieu très saint pour le faire sortir de mort à ce moment-là, faire sortir de sa présence où il avait été pas juste. Il y avait quelque chose dans sa relation avec Dieu, quelque chose qui n'était pas net. Et vous rendez compte que la grâce que Dieu nous a faite, c'est d'avoir, l'encre qui est jetée jusque dans le lieu saint de la présence de Dieu. Nous devons garder les yeux sur le Seigneur, vivre une vie qui lui plaît. Renoncer au péché, on l'a vu tantôt, renoncer au mal, parce que notre vie en dépend. Hein? Et être rayonnant de joie, parce que c'est une certitude. Cette espérance nous donne une paix et une joie extraordinaire. C'est pas peut-être, c'est certain, pour tous ceux qui sont en Christ, pour tous ceux qui obéissent au Seigneur qu'il aime, d'un amour inaltérable. Nous allons prier. Seigneur Père, nous voulons vraiment te remercier, Seigneur. Merci Jésus, parce que tu nous as fait miséricorde, tu as tendu la corde à notre misère. Nous étions au fond d'une fange, nous étions au fond d'un trou, le trou de nos péchés, de nos fautes, et tu es venu nous sortir de là. Seigneur, merci Jésus, parce que maintenant nous avons foi en toi et nous avons même de l'espérance, l'espérance de ta, avec ta parole,